Vous écoutez France Culture.
Vous écoutez France Culture, c'est l'heure du journal présenté par Clarence Rodriguez. Bonjour Clarence.
Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Un défilé du 14 juillet sous le signe de la fraternité d'armes. À l'honneur cette année, les forces militaires et de secours intervenues après le passage de l'ouragan Irma dans les Antilles. À l'automne dernier, deux invités d'honneur, le Japon et Singapour. Nous retrouverons dans quelques minutes Nathalie Hernandez en direct des Champs-Élysées. La grève générale se poursuit au Nicaragua. L'opposition exige toujours le départ du président Daniel Ortega et demande des élections anticipées. Il est accusé d'avoir durement réprimé les manifestations et mis en place avec son épouse une dictature marquée par la corruption et le népotisme. Malgré la situation insurrectionnelle, pas de pénurie alimentaire, nous expliquera dans ce journal une habitante de Managua, la capitale. Les résultats définitifs du bac tombés hier, près de 12% des candidats recalés. Cela a forcément fait un appel d'air pour Parcoursup, mais il reste encore sur la plateforme un tiers des élèves, un tiers qui n'ont pas validé de proposition sur Parcoursup. Solène Lelaine nous expliquera pour quelles raisons. Le traditionnel défilé du 14 juillet sous le signe de la fraternité d'armes. À l'honneur cette année, les forces militaires et de secours intervenues après le passage de l'ouragan Irma dans les Antilles à l'automne dernier. Deux invités d'honneur, le Japon et Singapour. Bonjour Nathalie Hernandez.
Bonjour.
Vous êtes en direct sur les Champs-Élysées et vous avez assisté à ce défilé.
Oui, ce défilé qui vient tout juste de finir, qui a été très applaudi comme chaque année. Et comme vous le disiez, les pays invités sont le Japon et Singapour. Ils font partie des fidèles partenaires de la France depuis des décennies. Depuis 20 ans d'ailleurs, plus de 180 pilotes singapouriens se sont formés dans l'Hexagone. Solidarité également avec le Japon, durement touché ces jours-ci par des intempéries. Hommage ensuite ce matin aux hommes et femmes qui sont venus en aide aux sinistrés de l'ouragan Irma. 305 militaires, policiers et secouristes ont défilé, comme le capitaine Denis qui fait partie des pompiers. Il n'oubliera pas ce mois passé à aider les habitants de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Ce que je garde en mémoire, c'est tout d'abord la capacité à travailler ensemble, puisqu'on était donc 5 unités différentes à travailler ensemble, donc sur un détachement de 60 personnels en deux vagues. Donc ça a été vraiment une grande richesse professionnelle. Ensuite, ce que je garde en mémoire, c'est la reconnaissance de la population. Voilà, les gens étaient vraiment dans le besoin et donc ils étaient vraiment attentifs à tout ce qu'on pouvait faire pour eux.
Un peu stressés, mais très fiers, les personnels soignants des hôpitaux d'instruction des armées. Ils défilaient pour la première fois. Ces médecins et ces infirmiers sont aussi des combattants qui vont sur le terrain récupérer les soldats blessés. Plus de 600 l'ont été ces 10 dernières années. Un monument dédié à ces militaires partis combattre en opération extérieure sera érigé normalement dans les prochains mois à Paris.
Merci Nathalie Hernandez, en direct des Champs-Élysées avec Marc Garvenès pour les moyens techniques. Et puis le traditionnel défilé du 14 juillet ne plaît pas à tout le monde. Un enseignant toulousain lance une pétition pour la suppression du défilé militaire du 14 juillet. Près de 2000 signatures ont été recueillies quelques heures après son lancement. C'est la seconde année qu'Alain Refallo dénonce cette tradition qu'il considère indigne d'une nation. C'est à Toulouse que Corinne Cutillat l'a rencontrée.
Pour Alain Refallo, cette parade est un gaspillage financier et un spectacle indécent. Une tradition indigne d'un pays, dit-il, qui prétend être fidèle aux valeurs de la fraternité.
Il est assez étonnant qu'en 2018, on soit l'un des tout derniers pays, après les dictatures, à devoir subir une parade militaire d'un autre âge, où les citoyens sont conviés à venir admirer des engins de mort, des armes, des missiles, des chars. Et ces engins alimentent les guerres dans les pays du Sud. Il y a déjà plusieurs années, Théodore Monod, que l'on ne présente plus, avait suggéré au président de la République d'organiser un grand défilé qui mettrait à l'honneur les forces vives de la nation, les enseignants, les cheminots, les infirmières. Cela aurait donné une autre image de notre pays. Je crois qu'effectivement, les associations, les citoyens sont porteurs aussi au quotidien de valeurs, de projets. Et cette pétition a la vocation à interroger effectivement l'utilité, le sens de ce défilé militaire en 2018.
Cette année, ce sont 64 avions et 30 hélicoptères qui survoleront les Champs-Élysées, accompagnés de 4290 hommes et femmes. On comptera aussi 220 véhicules, dont 62 motos.
Corinne Cutillat à Toulouse. Les résultats définitifs du bac tombés hier, près de 12% des candidats recalés, cela a fait un appel d'air pour Parcoursup. Des élèves qui, faute de bac, n'iront forcément pas dans l'enseignement supérieur à la rentrée de septembre. Parcoursup, justement, à ce jour, un peu plus de la moitié des élèves ont validé une proposition de formation sur la plateforme, une proposition qui leur convenait, soit plus de 430 000 élèves. 15% ont quitté la plateforme pour entrer dans les écoles, hors Parcoursup, à savoir Sciences Po, école d'infirmière, école de commerce, ou simplement parce qu'ils ont changé d'avis et décidé de ne pas suivre d'études l'an prochain. Les précisions avec vous, Solène Lelen.
Un tiers des candidats toujours sur la plateforme, cela représente plus de 250 000 élèves. Les situations sont diverses. La majorité, ce sont des bacheliers qui ont obtenu, d'après leur liste de souhaits, au moins une proposition de formation pour l'an prochain. Parmi eux, il y a les étourdis, les retardataires qui traînent pour valider définitivement cette proposition qui leur convient. Il y a aussi ceux qui ont gardé cette proposition sous le coude, mais en attendent une meilleure dans une formation qu'ils préfèrent et sur laquelle ils sont toujours sur liste d'attente. Le plus problématique, ce sont les candidats qui n'ont aucune proposition sur liste d'attente partout ou recalés de toutes leurs demandes en filière sélective. Ils sont presque 90 000, soit autant qu'avec APB l'an dernier au 14 juillet. Leur nombre baisse au fur et à mesure des jours. 14 000 ont demandé au recteur de leur académie de les aider à trouver une solution. S'ils le souhaitent, les 75 000 autres sans proposition ont encore une semaine pour saisir eux aussi leur recteur via la plateforme internet.
Explication de Solène Lehen. Grève générale au Nicaragua décrétée par l'opposition pour exiger le départ du président Daniel Ortega. Les adversaires d'Ortega demandent notamment des élections anticipées ou son départ. Il est accusé d'avoir durement réprimé les manifestations et mis en place, avec son épouse, une dictature marquée par la corruption et le népotisme. Un premier mouvement social identique avait bloqué le pays le 14 juin dernier. Aujourd'hui, un convoi d'opposants en véhicule doit parcourir les quartiers est de la capitale. C'est là où justement la police et les groupes paramilitaires ont réalisé de violentes opérations pour démonter les barricades des manifestants. Cassandra, une habitante de Managua, raconte l'ambiance qui règne dans la capitale aujourd'hui. Ce n'est a priori pas encore la pénurie, on l'écoute.
Il n'y a pas encore de pénurie vraiment. On arrive quand même à se procurer de la nourriture, de l'eau. On a accès à tout ça. Il y a eu un phénomène pendant quelques temps où il y avait des paramilitaires, des personnes cagoulées qui saccageaient les supermarchés. Donc à ce moment-là, oui, on a eu peut-être des pénuries dans certaines villes. Comme Masaya notamment, le supermarché était vide à cause des saccages que les gens avaient fait. Mais sinon, non, à part ça, on a accès à tout. Pour les commerces, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de commerces qui ont fermé. Ils ont mis la clé sous la porte. Donc, les commerces, il y a beaucoup de restaurants, beaucoup d'hôtels qui ont fermé, des magasins, des petites entreprises qui ont été touchées par cette crise. Donc, beaucoup de commerces ont fermé.
Les manifestations sont quotidiennes à Bassora depuis une semaine. Hier, c'est également dans une autre ville, Najaf, que l'aéroport a suspendu temporairement ses activités après avoir été envahi par plusieurs centaines de personnes en colère. Nabila Hamel, bonjour.
Bonjour.
Protester contre la corruption et la défaillance des services publics, c'est apparemment une constante dans les revendications des Irakiens depuis la fin de la guerre et les années de violence qui ont suivi. Ils expriment aujourd'hui encore un réel sentiment de frustration face à une reconstruction qui tarde à améliorer leur quotidien.
Ils trompent les gens, ils n'ont rien fait. Nous vivons sans eau et sans électricité. Nous demandons de l'emploi, plus de structures de dessalement de l'eau et la construction de centrales électriques. Ce sont les slogans des manifestants, aussi bien dans la ville de Najaf qu'à Bassora, où Haïdar El Abadi a tenté hier de calmer cette grogne. Le Premier ministre s'est engagé à débloquer les fonds nécessaires pour les services et la reconstruction de la ville. Mais les personnes sorties manifester dans la rue disaient ne plus croire aux promesses. Les ressources pétrolières représentent 89% du budget de l'Irak et donc l'essentiel de ses exportations. Les contestataires déplorent qu'elles ne fournissent en réalité que 1% des emplois aux travailleurs irakiens. Là, officiellement, le taux de chômage est de 10% dans un pays où 60% de la population a moins de 24 ans. Le plus haut dignitaire chiite d'Irak, l'ayatollah Sistani, a estimé légitime les revendications de ses concitoyens tout en les invitant à éviter le désordre. Pour lui, c'est au gouvernement central et aux autorités régionales d'agir concrètement. Les mouvements de colère reviennent de manière cyclique en Irak, un pays à terre depuis l'invasion américaine de 2003, suivi par des violences interethniques, puis par l'irruption du groupe État islamique dont l'éradication était l'une des priorités de Bagdad. Au plan politique, l'Irak est toujours sans parlement. Les dernières élections législatives du 12 mai ont été remportées par une coalition inédite formée par le leader chiite Muqtada Sadr et une formation communiste. Mais une opération de recomptage des voix est en cours dans plusieurs villes pour cause de contestation.
Merci Nabila pour ces précisions. Visite historique en Éthiopie pour le président érythréen Isaias Afewerki. Il est arrivé ce matin pour une visite de 3 jours à Addis Abeba. Il a été accueilli en grande pompe par le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Rappelons que la visite du président érythréen en Éthiopie fait suite à celle d'Abiy Ahmed en Érythrée la semaine dernière. Une visite qui avait déjà permis une réconciliation entre les deux pays longtemps en guerre. Avant de refermer ce journal, un coup d'œil vers le ciel. Temps variable avec des averses orageuses dans le centre-est, des averses suivies d'éclaircies dans le sud-ouest, sur le nord du pays, ciel variable avec tout de même du soleil. Il faut s'attendre à quelques ondées éparses de la région parisienne à la frontière belge. Quant aux températures, elles varieront entre 22 et 25 degrés de la Bretagne aux Ardennes en passant par le bord de la Manche. C'est dans le sud où il fera le plus chaud, 34 degrés autour de la Méditerranée. C'est la fin de ce journal réalisé par Emmanuel Faucillon.